Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on va regarder de près l'application de l'EA Act européen et plus spécifiquement pour les sociétés de gestion dans le private equity. On s'appuie sur une fiche pratique qui essaie de clarifier un peu ce nouveau cadre, notre mission, si on peut dire, comprendre comment on classifie les différents cas d'usage de l'IA qu'on peut rencontrer et puis comment naviguer dans cette réglementation qui arrive petit à petit.
Oui, c'est ça. Le texte devient très concret maintenant. Peut-être rappeler quelques dates. Février 2025, c'est l'interdiction des pratiques jugées inacceptables. Ensuite, août 2025, on a les obligations de transparence renforcées pour les IA dites à usage général, les GPAI.
Les GPAI, oui, les grands modèles type ChatGPT, ce genre de choses.
Exactement, ceux-là. Et puis l'application vraiment complète, notamment pour les systèmes à haut risque, ça c'est prévu pour août 2026. Donc ça arrive.
D'accord, ok. Alors, si on décortique un peu, l'Europe, clairement, cherche à renforcer la confiance, suit une approche assez prudente, de précaution. Pour une société de gestion, ça veut dire quoi? Ça touche la gouvernance, les processus de due diligence, et même la conformité des boîtes qu'elles ont en portefeuille, j'imagine.
Ah, mais tout à fait, l'impact est là. Mais attention, faut pas voir ça juste comme une contrainte, hein. C'est aussi une opportunité, en fait, de mieux cartographier comment on utilise l'IA. Et les AI Act, ils nous aident pour ça, avec ces quatre catégories de risques.
Les quatre catégories, oui.
Inacceptable, élevé, limité et minimal. Alors, inacceptable, bon, c'est simple, c'est interdit, point. On parle de quoi? Manipulation comportementale, notation sociale, surveillance biométrique de masse.
Bon, ça, a priori, on n'en trouve pas directement dans les outils d'une société de gestion classique, j'espère.
Normalement non, pas dans leurs outils internes directs, on est d'accord. Par contre, le risque élevé, ah bah là, c'est beaucoup plus pertinent pour le secteur. Ça concerne des systèmes utilisés dans des domaines, disons, sensibles, la santé, le recrutement.
Le recrutement.
Oui, ou l'octroi de crédit, la justice. Pour le private equity, ça peut être par exemple des outils d'aide à la décision.
Genre scoring d'investissement.
Voilà, scoring d'investissement ou évaluation RH dans les participations, des choses critiques. Et là, la régulation est forte. Après, on a le risque limité. Là, c'est surtout des obligations de transparence. L'exemple type, c'est le chatbot.
Ah oui, le petit robot sur le site web.
Exactement. Il doit dire bonjour, je suis une IA. Et enfin, le risque minimal, bon, bah ça, c'est la grande majorité des usages courants. Filtre anti-spam, les petits copilotes bureautiques qui ne prennent pas de décision critique. Là, c'est open bar, usage libre.
Ok, c'est plus clair pour classer. Mais alors, en pratique, on commence par où si on est une société de gestion?
Alors, il y a trois étapes clés, je dirais. D'abord, un inventaire. Il faut lister tous les systèmes d'IA utilisés, en interne, mais aussi ceux qui viennent de l'extérieur, hein, les outils SaaS par exemple.
Ah oui, il faut pas les oublier, ceux-là.
Surtout pas. Deuxième étape, classifier chaque usage selon la grille de la IA Act qu'on vient de voir. Et troisièmement, pour tous les systèmes qu'on a identifiés comme à risque élevé, là, il faut mettre en place une gouvernance stricte.
Gouvernance stricte, ça veut dire quoi exactement? C'est lourd.
Ben, ça demande pas mal de choses, oui. Documentation technique détaillée, une supervision humaine réelle et efficace, hein, pas juste cocher une case. Il faut aussi gérer les biais potentiels, penser cybersécurité, assurer la traçabilité et souvent nommer un référent IA en interne.
Ah oui, effectivement. Et là, on voit tout de suite l'impact sur les investisseurs, les LP et puis les régulateurs. C'est plus juste une affaire interne.
Exactement. Les LP, soyez-en sûrs, ils vont très vite intégrer ça dans leur due diligence. Donc, pouvoir montrer patte blanche, documenter ces usages d'IA, ça devient un avantage stratégique. Presque un passage obligé.
Et ça concerne les outils internes, comme le CRM, le scoring?
Oui, mais aussi la due diligence sur les cibles M&A. Il faut vérifier si elles sont conformes, elles aussi. Et attention, petit point technique, si une participation modifie une IA, elle peut devenir fournisseur au sens de l'acte, avec plus d'obligations.
D'accord, subtil.
Et bien sûr, dans la relation avec les LP, la transparence sur ces sujets devient clé.
Et à part ça, il y a d'autres points de vigilance? Des trucs spécifiques pour les fonds M&A?
Oui, j'en vois deux ou trois importants. D'abord, l'extraterritorialité.
C'est-à-dire?
Donc, l'acte s'applique même si votre cible est hors UE, dès lors que ces services sont utilisés dans l'UE ou qu'elle traite des données de résidents UE.
Donc une boîte américaine peut être concernée, ok.
Tout à fait. Deuxième point, la responsabilité du groupe. Les amendes, elles peuvent être salées. Jusqu'à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires mondial consolidé.
Mondial consolidé. Donc ça peut être le CA du fonds lui-même.
Ça peut, oui. C'est calculé au niveau du groupe. Et enfin, le risque réputationnel. Ne pas le sous-estimer. Un pépin avec l'IA dans une participation, et hop, ça peut rejaillir sur le fond. D'où l'importance de former les équipes.
Donc, si on résume, les IAX, bon, c'est une nouvelle couche de règles, c'est sûr, mais c'est aussi un moyen de bâtir la confiance. S'y préparer tôt, c'est éviter les sanctions, mais c'est aussi se rendre plus attractif pour les LP, finalement.
Exactement.
Et la cartographie, la classification des usages, c'est vraiment le point de départ indispensable.
Tout à fait. Et cette préparation, avec la documentation, la formation des équipes, ça devient un vrai avantage concurrentiel. Que ce soit pour lever des fonds ou pour acheter des boîtes.
Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'essentiel, c'est quoi? C'est qu'il faut commencer maintenant, en fait, à évaluer et à structurer comment on utilise l'IA, que ce soit au niveau de la société de gestion elle-même ou dans les entreprises du portefeuille.
C'est exactement ça. Et peut-être une petite réflexion pour aller plus loin. Au-delà de juste cocher les cases de la conformité, est-ce que cette grille d'analyse des risques IA, elle pourrait pas, activement nourrir la stratégie d'investissement elle-même? Autrement dit, est-ce que repérer les entreprises qui gèrent déjà bien ces risques IA, ça pourrait pas devenir un indicateur, un indicateur de leur résilience et de leur valeur future? Une piste à creuser, hein?